Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec Hippolyte Girardot. Il va nous parler de son film Je ne rêve que de vous dans lequel il incarne Léon Blum. Dans un instant, il sera avec nous. Et puis dans Les Indispensables, une série adaptée d'un célèbre polar de Stephen King, non moins célèbre, et un livre aux allures politiques et féministes. Bonjour Lise Pressac.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture qui débute avec la chanteuse Billie Eilish, comme ça qu'on prononce.
Oui, c'est comme ça.
Qui va interpréter la chanson du nouveau James Bond.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy.
Alors, c'est pas la chanson du prochain James Bond, ça c'est pour vous remettre Billie Eilish.
Exactement.
À 18 ans, l'américaine devient la plus jeune chanteuse à prêter sa voix à la bande originale d'un James Bond, No Time to Die, Mourir peut attendre en
c'est
français.
C'est génial.
Sera
c'est
le 25e film, oui.
Quand on a 18 ans, Mourir peut attendre. Moi, je trouve que c'est bien construit, ouais.
Et surtout, c'est Bad Guy.
Ouais.
Pour un James Bond, c'est pas mal aussi. Bon, bref, ce sera le 25e film consacré aux aventures de l'agent 007. C'est dingue de faire partie de ce film, a réagi Billie Eilish, qui a écrit les textes de la chanson avec son frère. Un James Bond dans lequel on retrouve Daniel Craig, sans doute pour la dernière fois. Mourir peut attendre sortira le 8 avril en France.
Une date qui a sans doute été minutieusement choisie et bientôt c'est une intelligence artificielle qui va s'en charger.
Oui, Warner Bros y travaille en tout cas. La firme américaine développe une intelligence artificielle pour choisir les dates de sortie idéales pour les films. Actuellement, les distributeurs prennent en compte par exemple les vacances d'été, les fêtes de Noël. Des critères qui pourront être affinés grâce à la technologie. Synelytic, c'est la société à l'origine de cette intelligence artificielle, serait aussi en mesure d'estimer le succès potentiel d'un film sur la seule base de son scénario. Mais pour le moment, Warner Bros. Ne s'en servira que pour choisir les dates de sortie des films.
On continue à parler de cinéma, tant est que ce soit du cinéma,
oui.
Cette intelligence artificielle, avec un record de fréquentation mondiale et ça fait plaisir.
Oui, en 2019, les entrées en salle ont généré 42,5 milliards de dollars au niveau mondial. Disney et la Fox captent à eux seuls 30% du marché. Et Disney peut dire merci au film Avengers Endgame qui a récolté 2,8 milliards de dollars, devenant ainsi le film le plus lucratif de l'histoire du cinéma et battant le précédent record qui était détenu par Avatar il y a 10 ans.
Alors qu'on disait que la télé allait tuer le cinéma en salle, pas du tout, c'est
ni
le
Netflix,
record mondial.
Ouais.
Ni Netflix, incroyable. Maintenant, vous nous parlez d'une polémique à la suite du dîner des révélations des Césars.
C'est une tradition, un dîner est organisé chaque année avec les révélations des Césars, des jeunes acteurs et actrices qui espèrent être nommés dans la catégorie meilleur espoir féminin ou masculin. Cette année, ils devaient être 36, accompagnés par leurs parrains et marraines, des personnalités du cinéma français qu'ils ont choisies, et d'ailleurs pas forcément du cinéma, des personnalités, sauf que tous les choix ne sont visiblement pas du goût de l'Académie des Césars. Ainsi, Jean-Christophe Folli, jeune acteur à l'affiche de L'Angle Mort, avait choisi comme marraine la romancière Virginie Despentes. On lui a refusé, il a donc boycotté le dîner. Même punition pour l'acteur Amadou Embo, présélectionné pour le film Atlantique. Il voulait être accompagné par Claire Denis. L'Académie lui a répondu qu'elle était indisponible. Elle n'aurait tout simplement jamais été contactée, d'après Mati Diop, la réalisatrice du film Atlantique. La Société des réalisateurs de films a demandé des explications, je cite, quant à ses agissements opaques et discriminatoires. Pendant la soirée, Michel Hazanavicius, Cédric Lapiche ou encore Marina Foïs sont montés au créneau. Dans un communiqué, Alain Terzian, président de l'Académie des Césars, a présenté ses excuses, mais sans pour autant expliquer ses refus.
Il n'a pas expliqué.
Non.
Virginie Despentes, qui a fait Vernon Subutex, persona non grata.
Voilà.
On termine ce journal avec le Louvre, le musée du Louvre, qui recrute une experte des spoliations nazies pour mettre de l'ordre dans ses collections.
Oui, le musée du Louvre a engagé Emmanuel Polak pour enquêter sur ses acquisitions entre 1933 et 1945. Cette spécialiste de l'art sous l'occupation devrait rester un an au Louvre, voire plus. L'objectif est de pouvoir restituer le plus d'œuvres possible. Alors, il y a 2 ans, le Louvre avait justement organisé une exposition consacrée à une trentaine d'œuvres de l'époque nazie qui n'ont jamais été restituées. Le Louvre compte au total 1752 de ces œuvres non réclamées, dont 807 peintures. Près de 300 sont conservées à Paris. Le reste est prêté à long terme dans d'autres musées français.
Merci beaucoup, Lise Pressac. À demain.
À demain.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, ce matin, on est ravis d'accueillir Hippolyte Girardot, Philippe.
Bonjour Hippolyte Girardot.
Bonjour Philippe.
Vous êtes comédien, parlez bien dans le micro Hippolyte.
Bonjour Philippe.
Pourquoi vous parlez avec cette voix? Pourquoi vous parlez avec cette voix
Philippe.
Ah voilà, je reconnais votre voix. Vous êtes à l'affiche du film Je ne rêve que de vous, film de Laurent Hinman avec Elsa Dieberstein qui sort aujourd'hui. Vous y incarnez Léon Blum et le plus dingue dans ce film, c'est qu'il y a une histoire d'amour, ça arrive, mais aussi qu'elle est vraie. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par le personnage de mon invité, mais par celui que joue Elsa Zilberstein, qui était Jeanne Reichenbach, que Blum appelait Jeannot.
Jeanne Reichenbach était un personnage tout à fait étonnant, il faut bien le dire. Elle a eu une sorte de flash pour cet homme, Léon Blum, quand elle avait 16 ans. Et Léon Blum était marié, voilà, il n'était pas question que quoi que ce soit arrive. Mais quand il s'est retrouvé veuf, je pense qu'elle a poussé ses pions, comme on dit. Je pense que Blum n'y était pas du tout indifférent, parce que c'était une femme passionnée, passionnante, extrêmement brillante intellectuellement, qui était, avec qui il pouvait vraiment avoir des conversations tout à fait à la hauteur de son ambition. Et voilà, l'affaire a commencé, malgré leur différence d'âge, et etc. On a connu ce genre de choses dans notre temps contemporain avec François Mitterrand et Anne Pinjot.
Non, mais ce qu'on n'a pas connu, c'est le sacrifice de cette femme. C'est là où je veux en venir.
Attends. Tu me poses une question sur le personnage. Je fabrique la machine pour à peu près arriver au personnage. Donc je disais, cette histoire d'amour a commencé. C'est terrible parce que les animateurs, Philippe le premier, ils veulent faire le truc.
Mais non, merde, pas du tout, je suis ravi.
C'est moi maintenant, je suis l'invité. Maintenant, je prends l'émission, j'en ai pour une heure. Je suis peinard.
Allons-y.
Bon, allez, on continue. Donc, à un moment, effectivement, ils tombent amoureux extrêmement fort, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe? La guerre arrive. Et quand la guerre arrive, on est quand même dans une situation où Léon Blum est accusé par le gouvernement de Pétain d'avoir été, en gros, la cause de la guerre. Il va être emprisonné, il va être jugé, etc. Et évidemment, il dit à Jeannot, qu'il appelle Jeannot, il lui dit « Il faut que tu partes, il faut que tu te protèges, tu es juive, ton mari t'emmène à New York, va avec ton enfant. » Elle avait un enfant avec cet homme, etc. « Pars !» Et voilà, cette femme ne part pas, passionnée par son histoire amoureuse avec Léon Blum, et décide de l'accompagner pendant toute cette... toutes ces années, en fait, où il faut se battre quand même pour survivre et pour faire valoir sa raison quand même. Et c'est là où elle l'a beaucoup aidé.
Et ça va même aller, elle va le suivre jusqu'en 1943, jusqu'au camp de Buchenwald, où il sera assigné à résidence. Enfin, c'est une maison à côté du camp. Elle va découvrir à la libération des camps l'horreur qui se trouvait à 800 mètres de chez eux. Oui. Alors on peut trouver complètement démesuré l'amour fou de Jeanne Reichenbach pour Léon Blum. Il y a une séquence dans laquelle Elsa Silberstein, la comédienne, raconte une séquence du film.
Vous le connaissez depuis si longtemps ? Je l'aime depuis que j'ai 16 ans. J'ai eu un coup de foudre. Ma mère s'était mariée avec un homme assez important. Et tous les jeudis soirs, mon beau-père recevait le tout Paris. C'est là que j'ai vu pour la première fois. Moi, j'étais une gamine un peu maigrichonne et toute timide. Et lui, il était là, entouré des plus beaux esprits. Il rayonnait dans le salon. Il était impressionnant. C'est là que je l'ai vu parler de la poésie de Goethe avec Marcel Proust. Et puis un jour, en le voyant partir, je me suis évanouie.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire, ou plutôt qu'est-ce qui vous a donné envie de la jouer, Hippolyte Girardot ?
Je pense que si on vous propose d'incarner un personnage que vous admirez, vous respectez, même sans vraiment le connaître, c'est très difficile de dire non. C'est vraiment, on se dit mince, c'est dommage quoi. C'est quand même dommage de pas essayer ça. Ça, c'est quand même la première chose. C'est très personnel, c'est très narcissique comme souvent pour les acteurs. Mais il y a aussi le plaisir de retravailler avec Laurent Henneman, avec qui j'avais déjà fait un téléfilm sur Giscard d'Estaing et Chirac. Et c'était vraiment un travail très intéressant. Et enfin, il y avait cette idée, que moi je trouve très belle, qui est de jouer un personnage très amoureux d'une femme incroyable, irrépressible, et qu'il est très difficile de cerner, de tenir, et de voir cet homme face à ce feu follet, entre guillemets. Comment raconter ça et jouer un personnage un peu plus vieux que moi quand même. Et ça m'intéressait.
Bonne annonce.
C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum? Tu serais prête à tout laisser tomber pour suivre un vieux politicard?
Ah, vous êtes là.
Vous n'en faites qu'à votre tête.
Dans ma tête, il n'y a que vous.
La défaite qui se prépare va être terrible. Et on va me la faire payer très cher.
La police a cerné la propriété des Montel. Elles ont arrêté Monsieur Blum.
Blum est parti.
Quoi? Comment ça parti?
Assigné au fort du Portalet.
Mais pourquoi? Mais c'est où? Vous avez compris pourquoi on vous a mis ici?
Pour nous humilier tous.
Le procès actuel n'est plus le procès de la France, mais il sera fatalement le procès de la République.
Je vous aime, Blum. Je vous aime.
Alors, je dois dire, Hippolyte Girardot, que quand vous apparaissez à l'écran, c'est assez bluffant. Comment vous êtes déjà entré physiquement dans le personnage? Il y a un maquillage, il y a un faux nez. Comment vous êtes Léon Blum? Comment c'est passé? Non, parce que vous aviez déjà été dans la peau de Giscard.
Oui, ben non. Il y a un faux nez. Non. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, sur Blum, pour l'acteur, c'est une chance. Pourquoi? Parce que Blum, on ne le connaît pas. On a une image dans les livres d'histoire, c'est tout ce qu'on sait, à peu près. Il y a très peu. Mais
on voit une minute
très, très
dans laquelle il harangue la foule, voilà, avec un son très bizarre, peut-être en muet d'ailleurs. Avec
sa, non, une petite voix assez fluette, puis il commence à perdre l'équilibre, on le rattrape, enfin voilà. C'est presque burlesque, quoi. Donc on n'a pas d'image comme ça, comme avec Giscard par exemple, on n'a aucune image. Et donc, si on réussit à, physiquement à trouver quelque chose qui ressemble, et ça n'est pas très difficile, les bonnes lunettes, la moustache, le chapeau, tout ça, il y a une image qui vient. Et si ensuite on commence, je pense, à s'intéresser à ce personnage, c'est un personnage fascinant. Et là, c'est le travail de l'acteur qui il rentre dans un espèce de truc et il le fait avec beaucoup d'humilité. Et c'est ainsi qu'effectivement, Bloom peut apparaître.
Pourquoi Bloom était-il à ce point maltraité, non seulement par l'État vichiste, ça on le sait, mais également par ses propres amis socialistes? Réponse après ça.
Léon Blum, incarné par Hippolyte Girardot dans le film « Je ne rêve que de vous » qui sort aujourd'hui. Hippolyte Girardot qui est avec nous jusqu'à 11h et vous pouvez suivre Culture Média en direct en vidéo sur Europe1.fr. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En 1940, Léon Blum est arrêté sur ordre de Pétain. Jeanne Levillier, alors mariée, abandonne famille et enfants par amour pour lui. Elle le rejoint à Buchenwald où Blum est otage d'État et l'y épouse. C'est le pitch rapide du film « Je ne rêve que de vous » qui sort aujourd'hui et où notre invité Hippolyte Girardot incarne Léon Blum.
Léon Blum, homme politique, figure de l'époque et figure maintenant, figure tutélaire, c'est toujours une référence. Comment on travaille en rôle pareil? Vous vous êtes renseigné, vous avez regardé le peu de films qu'il y a, vous avez beaucoup lu, comment vous avez travaillé?
La vérité, c'est que les images qu'on connaît de Blum n'existent quasiment pas, donc voilà. Mais par contre, il a beaucoup écrit. Et dans ses écrits, qui commencent surtout par des écrits littéraires, des critiques, des réflexions sur l'art et sur l'écriture, on voit un homme extrêmement brillant, vraiment extrêmement brillant, et quelqu'un de très, comment je pourrais dire, très respectueux en fait des gens dont il parle. Et je pense qu'il avait cette idée-là de respecter les opinions de chacun, de gérer ça tant que faire se pouvait. Et c'est comme ça qu'il a réussi à obtenir autant de choses avec le Front Populaire. Je pense que c'est parce qu'il a réussi à créer des compromis qui étaient acceptables par tous. Et ça a été très efficace, puisque encore aujourd'hui, on vit encore avec les acquis du Front Populaire. Donc ça, c'est quand même... voilà, il faut imaginer un personnage comme ça. Un personnage qui a toujours une sorte de... pas de distance, mais qui a toujours une espèce de vision globale sur la situation.
Moi, j'ai appris des choses en voyant ce film. Quand Léon Blum part pour Vichy, qui va donner les pleins pouvoirs à Pétain, il fait dire à Elsa Lieberstein, donc son personnage, Jeannot, elle dit « Je n'avais pas jusque-là réalisé l'épouvantable sentiment de haine que Léon Blum provoquait. » Il était détesté à ce moment-là.
Oh bah oui, bien sûr. Il était détesté. En plus, quand même, la France était...
Non, mais pas seulement par les collabos. C'est ça qui est impressionnant.
Non, bien sûr. Mais la France restait... antisémite, et quand même c'est ça qui est arrivé. Les caricatures de Blum à ce moment-là sont absolument ignobles, mais vraiment ignobles, quoi. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut un bouc émissaire. Il était parfait.
Ouais. Il va même passer en procès car on lui reproche de ne pas avoir suffisamment préparé la guerre. Écoutez cette conversation avec son avocat.
Vous avez vu mes documents?
Oui.
Le principal reproche qui va vous être fait, c'est celui de ne pas avoir préparé la guerre. Or, j'ai ici de quoi prouver que le réarmement n'a jamais été aussi intense que sous le Front Populaire, contrairement aux gouvernements qui l'ont précédé.
Dont l'un avait pour ministre de la guerre le maréchal Pétain.
Le cocasse, c'est que c'est lui qui a fait voter la diminution du budget militaire.
J'ai étudié tout ça, merci.
Mais je n'ai pas accès à tous les documents. Et l'instruction est faite à charge, c'est évident.
De toute façon, le maréchal a déjà déclaré que j'étais coupable.
Coupable, mais encore vivant.
Que voulez-vous dire?
Votre... ami, Max Dormoy, a été assassiné. Une bombe sous son lit dans un hôtel. On parle d'un groupe d'anciens de la cagoule.
Alors je rappelle que Léon Blum, c'est quand même l'homme qui a amené les congés payés, d'innombrables actions en faveur de l'éducation. Il a également créé le premier ministère de la culture, mais il était plus ou moins lâché par ses amis socialistes. C'est ça qui est fou.
Oui, après, la politique, c'est compliqué. C'est des trahisons, c'est des obédiences. C'est extrêmement compliqué à rentrer là-dedans aujourd'hui. Là, maintenant, ça serait un peu lourd, je pense. Mais c'est vrai qu'il a été trahi.
Je reviens à vous, Hippolyte Girardot. Cette histoire est tirée d'un livre de Dominique Missica. Je vous promets de revenir. Est-ce que vous l'avez lu ou est-ce qu'au contraire, vous êtes interdit de le lire?
Non, j'ai voulu avoir toute l'information sur le film par la bouche du metteur en scène. Et donc, Laurent Hahnemann m'a dit, si tu veux, je peux lire le livre à partir duquel Luc Béraud et moi avons écrit le scénario. Je lui ai dit, non, surtout pas, ça c'est votre travail. Moi, j'interpréterai jamais un livre, j'interpréterai un personnage dans un scénario que tu as écrit et que tu vas diriger. Parce que, voilà, chacun son job, quoi, d'une certaine façon. Par contre, j'ai lu des livres formidables, notamment sur Stendhal de Léon Blum, et aussi les écrits qu'il a fait après la guerre, où il essayait de penser à un monde nouveau. Ça, c'était très intéressant.
Il y a une grande relation sentimentale. C'est moderne, on est en 40. Elsa Zilberstein, Jeannot et Reichenbach retrouvent Blum en 40 à Bordeaux. Son mari est déjà au courant qu'elle a une relation avec lui. Il lui donne même l'adresse de l'hôtel de Blum. C'est moderne.
Oui, mais
c'est un couple moderne. Je me suis dit, tiens, pour 1940,
Ouais, je pense que ça existe bien avant tout ça, ces histoires entre les hommes et les femmes. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que Jeannot n'était pas commode. C'est-à-dire qu'elle ne se laissait pas faire. Et surtout pas par les hommes. Elle décidait de sa vie et décidait de qui elle aimait et comment. C'est vraiment un caractère incroyable.
Le film est très platonique, on ne voit pas de scène. Il y a des lettres érotiques, elles sont authentiques ou elles ont été inventées? Est-ce qu'elles ont été retrouvées dans la correspondance des uns et des autres?
Oui, il y a des textes qui ont été inventés. Ils n'ont rien inventé au niveau des textes. Mais ce qui est vrai, c'est que Jeannot Reichenbach, donc, qui a survécu à Blum, qui est mort en 1950, qui, elle, est morte en 1982, quand elle est partie, parce qu'elle a décidé de partir parce qu'elle se sentait trop faible, elle a quand même détruit toute la correspondance qu'elle avait avec Léon Blum.
Super de finir là-dessus.
Impossible de retrouver des traces, et des lettres et des échanges. C'est-à-dire que, vous voyez le caractère de la personne.
Ouais.
Elle se laissait pas faire, quoi. Donc, par contre, ce qui est dit dans le film, ça c'est authentique. C'est récupéré ailleurs, mais c'est authentique.
Les lettres érotiques sont authentiques.
Oui, tout à fait.
C'est pas vous qui les avez inventées.
Moi, non. Je n'écris pas tout à fait comme ça, les lettres érotiques.
Non, c'est un autre sujet. Vous restez avec nous, Hippolyte Girardot. Il nous dira comment il raconte, il écrit les lettres érotiques.
Hippolyte Girardot reste avec nous dans Culture Média. On va, dans nos indispensables du jour, nous intéresser à l'un des livres les plus remarqués de cette rentrée littéraire d'hiver, le livre Otage de Nina Bouraoui. Et c'est Nicolas Carreau qui nous en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondet.
Dans Culture Média, c'est l'heure de nos indispensables du jour. On va parler littérature comme promis avec Nicolas Carreau dans un instant et avec notre invité Hippolyte Girardot, qui est à l'affiche du film Je ne rêve que de vous, qui sort aujourd'hui et où il incarne Léon Blum.
Hippolyte Girardot, il y a quand même une dimension qui a été occultée par le réalisateur Laurent Hahnemann. Une des choses qui choquait énormément dans le couple entre Léon Blum et Jeanne Reichenbach, c'est qu'ils avaient 27 ans d'écart.
Oui.
Sauf qu'à l'image, là, vous n'avez pas 27 ans d'écart. J'ai regardé avec Elsa Zilberstein, vous avez 7 ans d'écart.
On joue un peu quand même.
Oui, mais quand même, c'est pas la même chose.
Non,
mais il faut quand même dire, en réalité, à l'époque, en 1940, j'ai regardé, Blum avait 68 ans, donc c'était un très vieux monsieur pour l'époque, et elle seulement 41 ans, ça change beaucoup de choses.
Ouais, c'est vrai, mais vous savez, l'amour fait du bien dans les deux sens, quoi. Ça l'a fait rajeunir, et je pense qu'elle, ça l'a fait mûrir.
Oui, mais je veux dire, voilà peut-être la raison pour laquelle ils n'étaient pas aimés et pas extrêmement acceptés, y compris par la famille même de Léon Blum, ce qu'on voit dans le film.
Oui, non, mais moi je pense que c'est au-delà de ça, au-delà de la différence d'âge qui est objective, je pense qu'il y avait quelque chose dans leur caractère, dans les deux, et notamment dans cette femme, le caractère de cette femme qui faisait que ça n'était pas si aisé que cela de l'apprécier, de l'aimer, etc. Et qu'elle prenne Blum, qui était la figure tutélaire de beaucoup de personnes, et je pense qu'il y avait une vraie jalousie qui s'opérait quand même. Je pense, j'en suis certain. J'imagine très bien un couple comme ça.
Une jalousie comment?
Des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Une jalousie vis-à-vis de
d'accord,
jalousie.
D'accord, cela suscitait une jalousie. C'est comment de tourner avec Elsa Zilberstein? Elle a l'air complètement habitée.
Écoutez, moi j'adore Elsa parce que j'ai déjà fait un film avec elle il y a très longtemps où on jouait, je ne sais plus où c'était, je crois en Roumanie. On jouait en Roumanie l'histoire de Modigliani avec Andy Garcia. C'était dingo. Et donc je l'ai retrouvée là pour jouer ce personnage. Et vous savez comment elle est, Elsa? Elle est totalement, dans quelque chose de totalement à fleur de peau. Voilà.
Elle est habitée. Oui, dans l'instant, le peu que j'en connais, elle est comme ça. Sur un plateau de tournage, ça va être encore pire.
Ah ben, elle est complètement dans son truc. Et avoir un dialogue avec elle quand on travaille, il faut attendre juste que ça redescende un peu pour voir vraiment parler du personnage. Et hop, ça repart. Elle adore ça. C'est comme si elle se... C'est un peu comme si elle se plongeait dans la piscine du personnage et elle nageait. Voilà, elle était partie là-dedans.
Vous êtes un grand lecteur?
Je suis un grand lecteur, oui.
mais vous allez nous dire après si un conseil de lecture vous avez à nous donner. Pendant que vous chaussez vos lunettes, je salue Nicolas Caro.
Bonjour, bonjour.
Salut Nicolas. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui? Normalement, j'ai votre feuille, mais là, je l'ai. Oui, un des livres très remarqués, je le sais, de cette rentrée littéraire d'hiver.
C'est le roman de Nina Bouraoui chez Jean-Claude Lattès. Ça s'appelle Otage, au pluriel. C'est l'histoire de Sylvie Meilleur, 53 ans, deux enfants, un mari. Elle travaille à la Cagex, une entreprise de caoutchouc.
Le genre de boîte.
Ouvrière, elle a commencé au bas de l'échelle, puis quand même, elle a gravi les échelons un par un, mais bon, sans jamais marcher sur personne. Elle est l'amie des employés, mais elle est devenue quand même une sorte de bras droit officieux du patron, à son corps défendant, mais bon, il lui fait confiance. Et elle n'est ni complètement épanouie, ni complètement malheureuse. Elle vit juste sa vie tranquillement. Elle parle de bonheur médiocre, vous voyez. Ouais. Et en fait, surtout, elle fait ce qu'on attend d'elle, quoi.
Et alors, vous connaissant, là, c'est un peu trop calme. Il va se passer quelque chose.
Plusieurs choses. D'abord, son mari la quitte du jour au lendemain. Bon, mais de toute façon, ça faisait longtemps que les choses n'allaient plus très bien. Elle continue comme si de rien n'était. Mais évidemment, c'est pas si simple. Et elle commence à s'écrouler tout doucement, intérieurement. Elle se délite, mais elle ne laisse rien paraître. Et puis, un jour, son patron la convoque, il lui explique que l'entreprise traverse une mauvaise passe, tout ça, n'est-ce pas, qu'il va falloir faire des choix, que c'est la crise, que c'est facile pour personne.
Mais en gros, il veut licencier.
Exactement. Mais le truc pervers, c'est qu'il demande à Sylvie d'établir une liste de ceux qui sabotent le travail, qui arrivent en retard, ceux qui sont moins motivés, ceux qui s'en foutent un petit peu. Bref, il lui demande de désigner ceux qu'il va mettre à la porte. Et elle, bizarrement, elle s'exécute, puisqu'elle fait toujours ce qu'on attend d'elle. Et puis, un matin de novembre, elle se réveille un peu différente. Vous savez, c'est un peu comme dans le film Chute libre de Michael Douglas. Le type a une vie normale, rangée, et un jour, dans les bouchons, il craque, il laisse sa voiture là et il part une journée, pour une journée de pétage de plomb intégral. Et bien, il y a un peu de ça dans Otage. Un matin, donc, Sylvie Meilleur se lève, elle monte dans sa voiture, mais elle prend la direction opposée à celle de son travail. Et puis, elle fait demi-tour. Elle vient quand même à l'usine. Elle sait que son patron, Victor Andrieux, y reste toujours seul le soir. Et là, elle passe les bornes. C'est-à-dire que pour la première fois de sa vie, elle franchit les lignes. Mais alors bien, c'est dangereux, complètement fou. Mais elle y va. Et pour la première fois aussi, elle se sent vivante.
Mais qu'est-ce que vous appelez passer les bornes? Elle fait quoi?
Je ne vous dis pas exactement.
Ah bah non,
pas abîmer votre lecture. Mais enfin, il
oh,
y a un indice dans le titre quand même.
Oui.
En tout cas, c'est un beau roman sur la liberté, la violence aussi, toute forme de violence. Et une réflexion sur ce qu'est être otage de sa propre vie.
Et c'est écrit comment?
Très très bien.
Hein?
Et c'est effréné, c'est une sorte de monologue intérieur de Sylvie qui va très vite. Et quand il y a un dialogue, c'est une forme très bizarre. Il n'y a pas vraiment des dialogues, c'est chacun son tour, mais c'est pour que ça reste un monologue très très profond de Sylvie elle-même, on est dans sa tête tout le temps.
Nicolas Caro dans ses œuvres en impro, Nina Bouraoui donc Otage, c'est chez Jean-Claude Lattès. Ça vous tente, vous avez un conseil de lecture sinon à nous donner, comme vous êtes un grand lecteur Hippolyte Girardot?
Non, moi j'ai été très marqué par un roman qui a été publié, je crois, il y a un an, peut-être deux ans, qui s'appelle Dans la forêt, de Jean Eklund.
Jean Eklund,
que vous connaissez, et qui est un roman assez incroyable. Elle a mis beaucoup de temps à l'écrire, elle est revenue dessus année après année. Elle raconte l'histoire de deux sœurs orphelines qui survivent dans un monde qui a disparu. C'est notre monde qui a disparu. Et la façon dont elle raconte l'extinction de notre civilisation, pour des causes évidemment écologiques, la façon dont elle, où les personnages essayent quand même de survivre avec pas grand-chose, parce qu'on n'apprend pas à survivre en fait, aujourd'hui, dans notre société, ça paraît utopique, et plus on le lit, plus c'est réaliste, et plus on est vraiment dans le réel de cette histoire, on croirait un documentaire en fait sur la vie qui pourrait nous arriver d'ici 10 ans, quoi. Et c'est fascinant, parce que le rappel au monde qui s'éteint est permanent, mais très quotidien. Très, très
vrai,
quotidien.
Vrai lien avec le livre de Nina Bouraoui.
Ouais. Ouais. Et c'est génial, parce que ça part de fantastique et ça finit comme du doc, et c'est presque l'inverse qu'on va voir tout à l'heure quand on va parler de série avec Margot Barallon. Vous restez avec nous. Et là aussi, Paul Girardot, sans note.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel. Et nos indispensables du jour continuent avec notre invité Hippolyte Girardot. Philippe, on va découvrir une série avec Margot Barallon.
Bonjour Margot.
Bonjour.
Parfois on le dit à la fin, mais là on va le dire dès le début. Vous nous conseillez une série diffusée sur OCS.
Oui, une série qui s'appelle The Outsider. Le premier épisode est sorti ce lundi. Et si je n'en oublie aucune, c'est quand même la 29e série adaptée d'un roman ou d'une nouvelle de Stephen King. Alors, on pourrait commencer à en avoir marre. Ce serait quand même dommage parce que celle-ci est particulièrement réussie. Comme souvent chez King, ça commence comme une enquête policière dans une petite ville au fin fond de l'Oklahoma. On retrouve le cadavre de Frankie Peterson, un petit garçon de 11 ans. Le meurtre est absolument atroce, le corps a été déchiqueté et très vite, tous les indices mènent à Terry Maitland. Alors Terry Maitland, c'est un professeur de lettres, mais aussi l'entraîneur de baseball de tous les jeunes du coin.
Terence Maitland, je vous arrête pour le meurtre de Frankie Peterson.
Pour le quoi?
Tendez vos poignets, je vous prie.
C'est quoi cette histoire? Hé, vous faites quoi là?
Vous avez le droit de garder le silence.
Don, mais qu'est-ce qui vous prend?
Vous comprenez ce que je vous dis?
Oui.
Alors en route.
Alors, je vous connais Margot maintenant depuis septembre, ça peut pas être si simple, sinon il n'y aurait pas de série.
Bah oui, évidemment, il y a tout de suite quelque chose qui cloche, bah, c'est que justement, il y a peut-être un peu trop de preuves.
Je comprends pas, ce type a tué un gamin. Le but, c'est pas de se faire coincer, mais tout ce qu'il a fait après le meurtre, c'est complètement con. Il entre couvert de sang dans un club de strip où il y a un tas de témoins, et il gare son véhicule sur le parking des employés, ensuite, il appelle un taxi... C'est comme s'il nous suppliait à genoux de l'attraper.
Et regardez-nous sur Europe1.fr parce qu'Hippolyte Girardot mime les dialogues.
Les dialogues.
Peut-être même mieux que la série.
Les doubleurs.
Margot.
Ça vaut
Margot.
Le coup. Alors, les choses, vous l'avez compris, sont peut-être un peu plus compliquées. Elles deviennent encore plus compliquées lorsque Terry Maitland dégaine, alors qu'il est déjà arrêté, un alibi en béton. Il était dans une autre ville au moment du meurtre.
J'étais à Cap City. De camp à camp. J'ai quitté mon domicile à 9h mardi matin et je suis rentré mercredi à midi le jour suivant.
Quelqu'un avec vous?
Oui, et Jerry Frost et Bob Berry.
Il y avait quoi à Cap City?
Il y avait une conférence pour les professeurs de lettres de l'enseignement secondaire. On est arrivé juste avant le déjeuner, puis on assiste à la réunion débat de l'après-midi.
C'est génial.
Alors, vraiment,
c'est
il faut génial. Regarder la vidéo hein, sur Europe 1.
Quel numéro d'Hippolyte Girardot?
Alors, son alibi
oui,
est,
l'alibi,
plus,
on voulait savoir,
est
on
en plus c'est... confirmé par plusieurs témoins, par des empreintes et même par une vidéo. Donc, on le comprend, ça va être un peu plus compliqué que ça. Ce qui est très bien fait dans cette série, c'est qu'on est persuadé d'avoir affaire à une affaire policière. Et en réalité, pas du tout. Je ne veux rien vous spoiler, évidemment, mais il y a un énorme retournement de situation dès le début du deuxième épisode. Et là, ça devient fascinant. La série policière va glisser progressivement vers quelque chose de plus sombre et vers le genre fantastique.
Ah ouais, vraiment ?
Bah, c'est quand même pas très étonnant, lorsqu'on connaît un peu Stephen King, puisque c'est, vous savez, l'écrivain qui fait surgir les monstres dans le quotidien des Américains. Autant vous prévenir, c'est vrai que je suis une petite nature, mais la série fait quand même très très peur.
Est-ce que Stephen King a participé à l'écriture?
Alors pas vraiment, il a juste validé les scripts, mais seulement de loin. En revanche, à l'écriture de la série, on retrouve un certain Richard Price. Et si vous ne connaissez pas ce nom, vous connaissez forcément son travail, puisqu'il a été scénariste pour Scorsese. Il a aussi écrit plusieurs épisodes de la série The Wire. C'est un grand spécialiste du genre policier. Lui-même a écrit des romans policiers, d'ailleurs. Un maître du suspense, ça se sent. The Outsider lui doit beaucoup.
Et vous l'avez dit, ça passe sur OCS en ce moment. Vous êtes fan de séries?
Oui, oui. C'est Richard Price, c'est un ex-journaliste, un auteur magnifique qui a écrit un bouquin sur Baltimore qui est extraordinaire et qui était un peu la base pour The Wire.
Non seulement, Hippolyte Girardot, vous avez joué dans le Bureau des légendes, mais vous en avez écrit.
Non, j'ai pas joué dedans.
Ah, vous avez seulement écrit?
J'ai seulement écrit, oui.
D'accord,
j'ai...
même pas un petit caméo. Comment on écrit une série comme ça?
On l'écrit sous la direction d'Éric Rochant, qui connaît la série par cœur et qui nous dirige, en fait. C'est comme s'il dirigeait des comédiens.
Ouais.
Et donc, on a une certaine responsabilité dans l'élaboration des dialogues, de trouver des situations, des solutions, surtout.
Ouais.
Des solutions scénariques, non pas des solutions, des solutions scénariques, c'est-à-dire comment faire croire à une histoire, par exemple, que vous êtes...
Scénaristique.
Oui, comme si... On dit pas... On ne devrait pas dire scénaristique.
Ah oui, pourquoi? Bah,
ça, d'où ça sort, ce mot?
Je ne sais pas. C'est dans les journaux.
Alors, trouvez-moi la racine de scénariste. Et moi, je veux bien l'écouter, mais pourquoi on dit pas scénarique?
Vous avez raison. Donc, l'histoire scénarique, comment on fait pour
c'est
les faire croire?
Voilà, c'est comme, par exemple, j'ai juste un petit truc comme ça. C'est Ségolène Royal. Il y a des gens maintenant, je dis dans les journaux, il y a les royalistes qui sont là pour aider. Mais pourquoi on les appelle les royalistes? Pourquoi on dit pas les royaliens? C'est ridicule parce que royaliste, ça veut dire quelque chose.
Bien sûr.
Tu vois, alors les gars qui sont derrière Ségolène Royal, ils doivent s'appeler les royaliens.
D'accord.
Ou les royalunes, ou les royalions, enfin quelque chose qui ne soit pas royaliste, puisque royaliste, ça existe déjà. Non, sans déconner, on ne fait pas assez attention aux mots.
C'est
et
vrai.
C'est terrible parce que les gens se perdent après. Ah, moi je suis royaliste. Ah, t'es royaliste? Non, je soutiens. Mais alors, t'es royalien?
Ouais. Il devait être content, tiens. Il devait être content, Éric Rochant, quand il relisait vos dialogues dans le Bureau des légendes.
Non, tout ça pour
il devait dire,
dire
non, t'es pas un peu hors sujet, mon petit hippo.
Le Bureau des légendes, on est très tenu et, ça, c'est fabuleux.
Évidemment,
c'est fabuleux.
Une efficacité millimétrée militaire. On a le droit de dire ça?
Tout à fait.
La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Hippolyte Girardot sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vondel.
C'est la dernière partie de Culture Média avec nous autour de la table Margot Barallon toujours et Hippolyte Girardot, notre invité, qui est à l'affiche du film Je ne rêve que de vous. Il sort aujourd'hui et Hippolyte Girardot y incarne Léon Blum.
C'est un film de Laurent Hellman qui a dit de vous, très beau compliment, que vous étiez un acteur très intelligent, et selon lui, il a dit, Laurent Hellman, il n'y a que deux de cette trempe, vous-même et Michel Piccoli. Ça fait plaisir, non?
Oh, je ne savais pas qu'il avait dit ça, mais moi j'adore Michel Piccoli. Ouais.
Ouais, il n'a pas tourné avec tout le monde, mais quand même, déjà, vous comparez Michel Piccoli, Le Mépris, plein d'autres films que je peux citer, La Grande Bouffe.
Oui, puis le personnage est
incroyable. Vous êtes en bonne compagnie. Et dites-vous également, Laurent Hellman, que vous n'êtes pas du tout dans la psychologie, mais dans le film. Pour moi qui ne suis pas comédien, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, la psychologie, c'est essayer de justifier ce que dit, ce que fait son personnage. Mais de le faire d'une manière qui soit presque lisible pour le spectateur. Et on n'est pas comme ça. En fait, notre psychologie, la vôtre, la mienne, n'apparaît pas parce qu'on décide de la montrer, elle apparaît malgré nous. C'est toujours intéressant de rester très fidèle, par exemple, à un texte ou à une situation, beaucoup plus qu'à un personnage dans son entièreté, parce que c'est là qu'on va voir vraiment qui est ce personnage. Et d'ailleurs, on ne peut travailler comme acteur donc que là-dessus, sur... quels sont les mots? Parce qu'un mot ou un autre, par exemple, dire au final, ou alors dire du coup, ou alors ça raconte quand même quelque chose. Et donc c'est effectivement là-dessus qu'on peut distinguer la personnalité.
Et il y en a qui croient que les mots n'ont pas d'importance. Alors c'est toujours amusant de retrouver des anciennes déclarations. J'ai retrouvé une interview de vous au mensuel Studio en mai 92, Hippolyte Girardot. Vous expliquez ceci. La panoplie de l'acteur, dit Hippolyte Girardot, ne se résume pas simplement au jeu. Il y a aussi une dimension marketing que chacun maîtrise plus ou moins. Il faut à un moment donné savoir vendre un personnage, le jeu de premier, de jeunes méchants, de type dans l'air du temps. Si t'es un acteur limité mais que tu possèdes cette faculté à te vendre, tu peux faire une belle carrière. Personnellement, je n'ai jamais réussi. Bon, c'était il y a 28 ans, vous avez fait un beau chemin quand même.
Oui,
non, pour un gars qui ne réussit pas.
Oui, je suis très heureux de mon chemin, etc. Mais c'est vrai que j'ai rarement eu la vista de ce que je projetait malgré moi dans les personnages.
Ah bon ?
Non, je ne sais pas du tout m'en servir. Mais par contre, j'adore le vivre. Mais je ne sais pas m'en servir. Je suis pas assez malin, quoi. Mais vraiment malin dans le sens, je suis un peu bête là-dessus, quoi.
C'est pas vrai.
Mais encore une fois, ça n'a aucune importance parce que l'énergie que je ne consacre pas à ça est consacrée à d'autres choses qui me passionnent. Et donc voilà, ça fait partie de ma personnalité, de ma carrière, d'être patin et couffin, et voilà, quoi.
Vous aimez bien les films historiques ?
Oui.
Bon, d'accord.
Pourquoi ?
Parce qu'à la République du Sang, vous avez dit « Je ne suis pas fan de films historiques, mais en revanche, j'aime bien jouer dedans. »
Ah bah voilà, c'est pour ça que je suis fan.
Ouais.
Parce que je peux mettre des costumes.
Ouais. Vous n'êtes pas client de ce genre de film quand vous êtes derrière l'écran.
En fait, je me demande toujours... Il faut autre chose que simplement le souci de raconter l'histoire, bien évidemment. Il faut avoir un point de vue. Mmh. Et moi, c'est pour ça, par exemple, j'ai très envie, c'est notre concurrent direct, évidemment, c'est 1917 de Sam Mendes, parce que je pense qu'au-delà de l'histoire...
Qui sort aujourd'hui.
Au-delà de l'histoire, je pense que la façon dont il l'a raconté, apparemment, c'est tout à fait comme un tour de force, je pense que c'est ça, le point de vue réel sur la guerre de 14-18 qu'il a voulu donner.
Le tour de force, mais ça ne suffit pas, c'est que c'est un plan séquence, un peu comme dans La Corde, le film d'Hitchcock, c'est que ça commence du début à la fin, la caméra ne coupe jamais. Tout à fait autre chose, vous êtes chroniqueur dans l'émission humoristique Nos Amis de France Inter par Jupiter. Oui. Comment vous avez pris les critiques de Frédéric Becbédé contre les humoristes de France Inter, justement, qui rient et avec ce ricanement systématique que dénonce Becbédé, pour le citer, cette dictature du LOL.
Oui, je suis un peu mari de la réaction de Frédéric Becbédé, qui se pose un peu en martyr et en accusateur. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué pour lui, qui est très complexe, que moi je ne pourrais pas analyser parce que je ne le connais pas assez bien. Et je pense que c'était pas spécialement très malin de sa part de vouloir associer son amertume, ce que je peux très bien comprendre, au fait de dire maintenant on est dans la dictature du rire et c'est ainsi que les fachos vont prendre le pouvoir dans le monde entier. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'est pas vrai. C'est une analyse trop succincte. Et quand on connaît un peu Frédéric, qui n'est pas un imbécile, je pense qu'il est en dessous de ce qu'il aurait dû faire, écrire, etc. Moi, je pense ça.
Prochain projet, La Daronne ?
Oui.
Ah ouais ?
La Daronne qui sort le 25 mars avec Isabelle Huppert.
Ouais.
Qui joue un personnage assez...
Pourquoi ça vous fait rigoler ?
Parce que...
Je savais pas qu'il y avait un truc à vous faire rigoler, alors dites-nous, qu'est-ce qu'elle a eu peur ? Elle est comment dans le film ?
Non, parce qu'elle est top. Elle est top.
Ah oui ?
Et surtout, non seulement elle est top, mais on sent en elle quoi, le plaisir qu'elle a eu... À jouer ce rôle. Et quand on voit le film, on se dit oui, c'est vrai, elle était comme ça et c'est comme ça que ça a marché.
Bon, il y a un truc que vous n'avez pas voulu nous dire, mais justement, ça n'en cause que plus d'envie, d'appétit. Merci beaucoup Hippolyte Girardot. Je rappelle, vous êtes à l'affiche du film Je ne rêve que de vous, signé Laurent Inman. Ça sort aujourd'hui avec Elsa Silberstein. Et nous, on se retrouve demain dans Culture Média à 9h. Nous serons avec Éric Scholl, le journaliste qui lance une nouvelle formule de l'Express pour la partie média, et le romancier Pierre Lemaître. Goncourt, on est Goncourt à vie pour la partie culture. Bonsoir, bonsoir, bonne journée Margot Barallon, bonne journée Céline Dacosta.
Bonsoir, à demain. Philippe Dandel. Voilà. Dans un instant, Anne Roumanoff débarque avec toute sa bande et leurs invités, la youtubeuse Victoria Charlton et le député Benjamin Griveaux.
Salut Hippolyte.